culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Très cher auditeur et auditrice, je te souhaite la bienvenue. Tu te trouves au culte espoir. J'ai toujours autant de plaisir à partager un moment avec toi là où tu te trouves. Aujourd'hui, je suis avec Amandine. Bonjour Amandine.
Bonjour à tous. C'est bon de se retrouver pour vivre un temps de culte ensemble.
Et nous avons sur le plateau le plaisir d'accueillir Isabelle Brouzé. Alors,
merci
bonjour.
Beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi d'être ici.
Isabelle, tu es mariée, tu as deux enfants, tu es couturière, tu as fait il y a quelques années en arrière des études de théologie, tu es très engagée dans une église depuis quelques années maintenant et tu fais partie aussi de l'église Conviva, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots ?
Bien sûr. Alors déjà, le mot Conviva, en français, on peut penser à convivialité.
Oui,
donc, on est une église adventiste du septième jour.
D'accord.
Et on est, on va dire, un bébé de l'église lusophone de Ney.
D'accord.
Et on a comme objectif d'attirer les gens à Dieu, vers Dieu,
okay.
avec... de la convivialité, avec l'amour, avec le côté social, que les gens puissent sentir à l'église comme chez eux, en sachant que c'est la maison de Dieu, mais qu'ils se sentent comme chez eux.
C'est le cœur de l'église.
Exactement.
Le cœur de l'église. Eh bien, merci. Quand nous avons demandé de nous envoyer le thème que tu voulais nous partager aujourd'hui, tu as choisi le titre « Où es-tu ?», c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots ?
Imaginons qu'on est dans une ville et qu'on veut aller quelque part. Et nous avons l'habitude de trouver des cartes avec les rues pour arriver où on veut.
Tout à fait.
Mais pour trouver ça, il faut savoir où on est. Et souvent,
clairement.
Dans ces cartes, c'est marqué « Vous êtes ici
».
C'est le point de départ. Et dans la Bible, il y a une question très jolie au début de la Bible, c'est « Où es-tu ?» Pour savoir où on veut aller, pour y arriver, il faut qu'on sache où on est maintenant. Et donc, c'est dans cet objectif, l'objectif, c'est ça. C'est se positionner pour savoir où on va.
Eh bien, merci. Ah, j'ai vraiment hâte d'entendre. Merci, Isabelle.
Alors, Brian et moi avons expérimenté, il n'y a pas longtemps, un temps avec Dieu un peu particulier. Nous avons décidé, suite à un plan de lecture qui s'appelle « 7 jours de marche de prière dans ma maison » que j'avais suivi sur YouVersion, de justement faire un tour de prière dans notre maison, le faire à notre manière en couple. Nous avons décidé de nous mettre dans chaque pièce de notre maison et de réfléchir ensemble à ce qui se vivait dans cette pièce, ce que nous voulions qu'il s'y vive, et nous avons prié pour chacun de ces lieux. Que le Seigneur le bénisse, le remplisse de sa présence. Nous avons pu confesser aussi des mauvaises habitudes ou des choses qui s'étaient passées dans certains lieux que nous ne voulions plus vivre. Nous avons demandé à Dieu qu'il nous ouvre les yeux aussi sur ce que nous vivons ou faisons dans ces pièces qu'il voulait que nous changions. Cela peut sembler étrange, mais c'était en fait une manière pour nous de faire un état des lieux spirituels de notre foyer. Où en sommes-nous au cœur de notre foyer?
Alors franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant que cela. Nous sommes d'abord allés dans le hall d'entrée. Alors on s'est posé la question, est-ce que nous avons emménagé ce lieu de telle sorte que les personnes qui rentrent chez nous se sentent bien? Que les personnes qui entrent dans ces lieux sentent que c'est un lieu où Jésus règne? Bon, j'avoue, quand on est entré dans les toilettes, on s'est demandé un peu pourquoi on allait bien prier. Eh bien, préparez-vous, si vous faites l'expérience, à être surpris des échanges entre Dieu et vous, qui peuvent naître de ces temps de réflexion et de prière.
Nous avons terminé ce temps par un temps à deux, d'état des lieux plus individuels, état des lieux de notre être intérieur. Et toi, comment tu vas? Comment ça va avec Dieu en ce moment?
Et ça, c'est quelque chose que nous faisons assez régulièrement. C'est important pour nous parce que cela nous oblige à nous poser et à prendre le temps de nous connecter avec ce qu'il se passe à l'intérieur.
Souvent d'ailleurs, quand on prend ce temps pour faire l'état de lieu de notre relation avec Dieu, par exemple, cela nous aide souvent à mieux comprendre les défis que nous percevons dans notre relation, dans notre fonctionnement à deux.
Clairement, quand l'un ou l'autre est moins connecté à Dieu, on le ressent direct dans notre vie commune.
Alors voilà, nous te partageons cette idée d'état des lieux de chez toi. Une petite balade intérieure dans la présence de notre Papa Céleste. Alors Brian, quelle est la promesse du jour que tu aimerais nous partager ?
Alors j'aimerais partager avec toi, auditeur, un verset qui se trouve dans le livre des psaumes de David au chapitre 46 et le verset 2 qui dit « Soyez honnêtes envers le Seigneur et n'hésitez pas à rechercher son aide, car Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avec Dieu, il n'y a aucun filtre sur ma condition humaine, il sait ce que je vis et ce que je ressens. Ce verset m'invite à reconnaître la condition dans laquelle je me trouve pour lui exprimer avec transparence que j'ai besoin de lui. Et bonne nouvelle, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'est-ce pas réconfortant ? C'est lui qui sera ton refuge, ton appui. Alors n'hésite vraiment pas à rechercher son aide. Il sera présent.
Tu te trouves dans le culte espoir et nous allons maintenant vivre un temps de louange en musique. Brian, que nous réserves-tu ?
Alors parfois, nos blessures sont si profondes qu'elles touchent l'âme. Ce qu'il y a de plus profond en nous, de nos tripes, dirait-on aujourd'hui. Et dans ces moments-là, où l'on est un peu perdu, on a besoin d'être restauré, d'être préservé. Dans cette chanson plutôt connue qui est reprise par Kenji Girac, il est question de confier son être le plus profond à Dieu, afin que l'on puisse trouver un soutien, une source de paix et d'amour. Je t'invite à te plonger dans les paroles de cette chanson que tu connais peut-être et penser aux paroles qui pourront, j'en suis sûr, résonner dans ton cœur.
Vers toi je crie, plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.
Dans notre quotidien, qui va parfois à 200 à l'heure, un rythme effréné où on a du mal à se poser, nous avons plein de choses qui valsent dans nos esprits. Ça peut être des émotions, la colère, la peur, la joie, le stress, la frustration, un besoin non comblé, une attente qui vient obstruer mon quotidien. Il m'arrive de culpabiliser parce que je passe pas assez de temps dans la prière, dans la lecture de la Bible ou même tout simplement dans la présence de Dieu. Et j'ai parfois le sentiment très humain de ne plus mériter d'être dans sa présence. Et dans la chanson qui va suivre, il est dit « Quel que soit le moment, quelle que soit la saison, viens devant le Père. Même quand il n'y a rien à dire, même si tu as peur de ne rien sentir, viens devant le Père. » Cette chanson t'invite à aller auprès du Père divin, quels que soient les moments que tu traverses, les choses que tu as faites. Réfugie-toi auprès de lui. Et il t'accueillera les bras ouverts.
Quel que soit le moment, la saison, si infime que soit la raison, viens devant le Père. S'il connaît de nos cheveux le nom, il n'est rien qu'il ignore de nos ombres, alors viens, viens devant le Père. Même quand il n'y a rien à dire, que les mots ne pourraient que trahir, viens devant le Père. S'il connaît de nos vies les méandres, il n'est rien qu'il ne saura entendre. Alors viens devant le Père. Rentre chez toi, derrière ta porte, et là, caché dans le mystère, retrouve-le dans la prière. Que ce soit dans la joie, la colère, ou qu'on soit des milliards sur la terre, viens devant le Père. S'il connaît les planètes, le nombre, il n'est rien de nos vies qui l'encombre, alors viens devant le Père. Rentre chez toi.
course un instant ralentir. Malgré la peur de ne rien sentir, viens devant le Père. Et si dur que soit le premier pas, ce fut lui qui l'a fait sur la croix. Alors viens, viens devant le Père. Rentre chez toi, derrière ta porte, et là, laisse entrer la lumière. Tu seras trouvé par le Père.
Nous avons évoqué dans les deux chants précédents la notion du besoin de Dieu, du besoin d'accompagnement, de soutien, de déposer nos fardeaux à ses pieds, besoin d'être dans sa présence, qu'il remplisse mon âme. Quand je prends conscience de ces besoins-là, cela crée en moi un fort désir de marcher à ses côtés, de pouvoir l'intégrer dans ma vie. La prochaine chanson est une chanson de Matt Marvan qui parle du désir de vouloir marcher aux côtés de Dieu, d'écouter sa parole, de le suivre intensément jour et nuit. Mais je te laisse écouter et apprécier la douceur de ce chant. Bonne écoute.
C'est toi que je veux suivre jour et nuit. Comme un bel arbre planté tout près d'un courant d'eau, pour toi je veux porter de bons fruits. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Secret pour être heureux, c'est d'écouter ta voix. Chacun de tes mots sont importants. Toujours suivre tes conseils et faire les bons choix pour te représenter dignement. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Je veux marcher sur cette
la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. En toute saison, je reste près de toi. Tu es la source de ma joie. Oh, en toute saison, je reste près. Source de ma joie. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin.
Amen. Merci beaucoup pour ces chants qui, je trouve, nous ont beaucoup parlé. Voilà pour cette chronique Dieu agit. J'aimerais remercier Romina de m'avoir partagé un témoignage que j'aimerais te partager à mon tour. C'est un article du pasteur et conteur Dick Dirksen tiré de la revue Adventist World d'avril 2020. Dick Dirksen raconte les paroles et l'histoire de Terry Johnson. Je n'arrivais ni à lire ni à écrire. On m'a viré du CE1, la 4P. Une nouvelle enseignante a divisé la classe en deux sections. Au début, elle m'a mis dans la section avancée, mais rapidement, elle m'a casé dans un coin de la classe. J'étais tout seul, oublié, livré à moi-même. Ce sont là les paroles de Terry Johnson, sergent de l'armée de l'air, lequel est aujourd'hui pasteur, professeur, animateur de radio, aumônier et leader spirituel. Terry est un raté du CE1, de la 4P, dont la vie a été un dur sentier parsemé de tragédies, d'échecs et de victoires en Jésus. L'un de ses bons amis dit de lui:
Terry a fait personnellement l'expérience du salut. Dieu l'utilise pour partager la bonne nouvelle de la grâce aux puissants et aux faibles. Approchez-vous de Terry et il vous montrera que Dieu non seulement vous aime personnellement, mais qu'il est aussi désireux de faire des miracles dans votre vie.
Alors Terry raconte: en tant que sergent de l'armée de l'air, j'ai servi dans la garde d'honneur du président pour 3 présidents des États-Unis. Chacun d'eux savait que j'aimais Dieu. Terry termine de peine et de misère l'école primaire et secondaire, puis il s'enrôle dans l'armée de l'air, où il réalise finalement les troubles de l'apprentissage qui l'ont handicapé dans sa scolarité. Déterminé à aider d'autres personnes confrontées à des difficultés semblables, il commence à donner des conférences dans lesquelles il encourage les jeunes à réussir. Lors d'une de ces conférences, un ami lui demande de prendre la parole dans une prison locale, le pénitencier d'État de l'Oregon à Portland.
Bon nombre de ces gars sont en prison parce que personne ne les a aidés à surmonter leurs troubles de l'apprentissage,
dit-il à Terry.
Ils se sont découragés, ont fait de mauvais choix et ont fini ici. Viens leur parler.
Terry accepte, d'autant plus qu'il est lui-même originaire de Portland, la ville où il a échoué son CE1, sa 4P. À mon arrivée à la prison, décrit Terry, on m'a conduit dans une grande salle et on m'a dit que c'est là que seraient rassemblés tous les prisonniers. L'officier m'a expliqué que la prison était pleine de membres de gangs qui se détestaient les uns les autres. Pour cette raison, la garde avait été renforcée pour l'événement. Ensuite, l'officier m'a donné les règles.
Tu te lèves, tu parles seulement quand on te le dit. Tu restes sur l'estrade, tu ne vas pas vers les prisonniers, tu ne pries pas et ne fais aucun appel à l'engagement ou au changement. Tu parles, puis tu t'en vas. Point final.
Ok, répond Terry. La salle se remplit rapidement de centaines de prisonniers. Terry raconte. Quand tout le monde s'est assis, trois gardes ont amené un dernier prisonnier, le pire cas du pénitencier. Ses jambes étaient enchaînées et une autre chaîne montait de ses cuisses jusqu'à son cou, si bien qu'il pouvait difficilement bouger. Les gardes l'ont fait asseoir au fond de la salle, à l'écart des autres, et l'ont entouré, prêt à intervenir. Terry ouvrit son cœur aux prisonniers et commença par leur raconter ce qu'il s'était passé pour lui en CE1, en 4P, puis il décrit sa vie d'échec, ses problèmes à l'école, ses problèmes avec la loi, ses problèmes avec lui-même. Il leur raconta aussi combien sa mère l'avait aimé et avait prié constamment pour lui. Il leur dit « Finalement, ça a fait tilt ». Je me suis rendu compte que Dieu m'aimait même quand j'agissais mal et qu'il était toujours là pour m'aider à vivre comme si j'étais son propre fils. Les prisonniers l'écoutaient avec attention. Des robustes prisonniers laissèrent leurs larmes couler alors qu'ils écoutaient Terry et qu'ils revivaient à travers ce qu'il disait leur propre histoire. À la fin de sa conférence, Terry entendit Dieu lui dire de prier pour ces hommes, même pour le gars enchaîné qui se trouvait au fond de la salle. Il ne demanda pas la permission, il leva simplement les mains et rappela aux détenus combien sa mère avait prié pour lui à chaque moment de sa vie. Il leur dit « Vous avez pour la plupart une mère, une grand-mère, un père, une tante, un oncle ou quelqu'un d'autre qui vous aime et qui a prié pour vous comme ma mère priait pour moi. Maintenant, si vous aimeriez que je prie pour vous, levez-vous et levez vos mains haut comme ça. Vous êtes d'accord ? » La salle était maintenant pleine d'hommes debout, d'hommes qui pleuraient, d'hommes qui, mains levées, suppliaient Terry de prier pour eux. Même les gardes se levèrent, les bras tendus vers le ciel, vers Dieu. « Et j'ai prié, poursuit Terry, oh j'ai prié, j'ai utilisé les mots que je savais que leur mère avait prononcés pour eux en prière. Nous avons pleuré ensemble. » Alors qu'il priait, Terry descendit de l'estrade et se frayant un passage entre les prisonniers, se dirigea vers l'homme enchaîné au fond de la salle, vers le prisonnier qui avait essayé de se lever mais que les gardiens armés avaient réprimé sur le champ, vers l'homme en larmes qui luttait pour lever ses bras enchaînés vers Dieu. Terry ne peut raconter cette partie de l'histoire sans faire une pause. Ses yeux s'embuent de larmes. Alors que je me dirigeais vers cet homme, les prisonniers m'ont entouré, m'ont remercié. Quand je suis arrivée devant lui, j'ai demandé à tout le monde de se tenir de côté et de me laisser lui parler. Je me suis accroupie et il s'est penché vers moi. Nous étions maintenant face à face.
Tu te souviens pas de moi, hein, mais moi je me souviens de toi. Il y a 20 ans là-bas, en CE1, avant que la prof ne t'envoie sur la chaise dans le coin. J'étais le garçon assis à côté de toi à la troisième rangée. Toi, t'as écouté la prière de ta mère et t'as laissé Jésus te sortir de là. Mais moi, pas. J'ai pas écouté. À 15 ans, j'avais déjà été arrêté 17 fois. À 18 ans, j'ai commencé à vivre dans la rue. Tu sais comment m'appeler dans la rue ? La calculatrice humaine. Parce que je pouvais mémoriser tous les deals de drogue sans rien écrire. Finalement, je me suis fait prendre. Je sortirai jamais d'ici, Terry. Terry, est-ce que Jésus peut m'aimer ici, en tôle ?
Terry a répondu « Oui, il t'aime déjà !» Et toute la salle se remplit d'acclamations. Randy, le prisonnier enchaîné, fut baptisé quelques mois plus tard. Bien qu'il purge encore sa peine de 60 ans, on l'appelle maintenant l'aumônier de la prison à cause de la manière dont il partage sa nouvelle vie en Christ.
Donc, je me suis rendu compte que les êtres humains sont des êtres à poser des questions. Dès qu'on est tout petit, moi, je me souviens, c'était pourquoi, pourquoi ? Je demandais toujours pourquoi. Donc, on est des êtres à poser des questions. Et je pensais que c'était que les chrétiens ou les croyants qui posaient des questions à Dieu. Mais je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu lui posent des questions et disent « Pourquoi, Seigneur ? Et si tu existes, pourquoi cela arrive ?» Donc, cette histoire de se poser des questions est commun à tous les êtres humains. Et souvent, elles sont pertinentes. elles sont importantes, qui ont grandi grâce aux réponses qu'on trouve à nos questions. Nous voulons savoir, et avec nos questions, nous voulons obtenir des informations. Souvent, on s'enrichit, notre culture. Mais je me suis rendu compte aussi que Dieu pose des questions. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il se pose des questions. Et les questions de Dieu, elles peuvent nous paraître très bizarres, du point de vue humain. Il va poser la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il voyait bien que c'était un bâton, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il va poser la question au paralytique de Bethesda, est-ce que tu veux être guéri? Le pauvre, il était là pour ça. Il avait même expliqué à Jésus, je suis là, j'attends que quelqu'un me jette dans l'eau. Donc c'était clair qu'il voulait être guéri. Jésus va poser la question, qui m'a touché? Quand il était entouré de disciples et de gens, mais il va poser la question, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon, qui? Donc c'est des questions qui paraissent bizarres parce que Dieu n'a pas besoin d'informations. Il connaît tout. Alors pourquoi il pose ces questions? Il faut simplement comprendre que les questions de Dieu sont plus pertinentes et plus importantes que celles des hommes. Parce que souvent, il pose une question, non pas pour obtenir lui-même une réponse d'information, mais pour que la personne se pose la question, trouve sa réponse. Et après, avec cette question, Dieu veut simplement demander, oui ou non. Est-ce que, avec la réponse que tu as trouvée, est-ce que tu veux mon aide ou pas? Et donc, on pourrait dire que dans les questions de Dieu, il n'y a pas un besoin d'information, mais un besoin de décision de notre part. Et il dit souvent, s'il te plaît, est-ce que tu veux que je t'aide un peu? Il sait qu'on a besoin de son aide, donc il ne va pas poser la question, est-ce que je peux t'aider? Il va dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Et nous voici devant la première question biblique posée par Dieu à l'homme. Simplement, si on peut faire un petit résumé de la situation, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr, c'était un couple, ils étaient parfaits. Dans le sens humain, des fois on pense parfait, c'était, il n'y avait rien d'autre à faire, c'était complet. Mais nous pouvons comprendre avec un exemple humain que la perfection, même dans le cas biblique, c'était une perfection qui avait besoin de développement. C'est-à-dire, quand j'ai eu mes enfants, mon mari m'a demandé, la première chose qu'il m'a dit, c'est il est bien, il est parfait. Et j'ai dit oui, il est parfait, mon grand était parfait. Bon, il a eu un petit problème pour l'accouchement, mais c'est pour ça qu'il m'avait posé la question. Et puis quand il a vu, il aurait pu me dire, mais qu'est-ce que tu me dis, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de dents, il fait pipi caca dans une couche. Donc comment un être comme ça peut être parfait? Et pourtant il était parfait. Il était parfait par rapport à ce qu'il était, un nouveau-né. Bien sûr, si à 18 ans, il n'a pas de dents, il continue à faire pipi caca dans sa couche, là, il y a un problème, parce qu'il n'a pas eu le développement, donc il n'est plus parfait par rapport à ce qu'il devait être. Et les êtres humains, ils étaient dans cette situation-là. Ils étaient parfaits, mais ils devaient passer une épreuve pour être sûrs que le Dieu qu'ils voulaient adorer, c'était bien leur créateur. Et ils ont passé cette épreuve, ils devaient faire un choix. Et le choix, c'était très simple, c'est est-ce que je crois à ce que me dit mon Créateur ou est-ce que je crois à ceux qui disent le contraire? Finalement, c'est les mêmes choix que nous avons aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
C'est le choix de, quand Dieu me dit quelque chose et que les amis, les professeurs, les informations me disent quelque chose de contraire, qui je crois? Qui dirige ma vie? Où je mets ma confiance? Et cela peut changer complètement tout. Enfin, si nous mettons notre confiance en Dieu, alors nous savons où nous allons. Sinon, le chemin peut être très bizarre et plein d'embûches. Et donc, ils ont fait le choix. Adam a dit, nous préférons croire à celui qui dit le contraire de Dieu. Donc, nous cédons à la tentation. Nous croyons à ce que dit Satan. Nous essayons autre chose, et puis nous verrons ce que ça donne. Très vite, ils ont vu ce que ça donnait. Parce qu'au chapitre 3 de Genèse, verset 7, c'est marqué « Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. » C'est très intéressant parce que ce mot nu dans l'étymologie hébraïque, ça veut dire sans protection, ça veut dire exfolié, c'est-à-dire c'était comme s'ils étaient sans rien qui les protégeait. Et c'est ce soir-là, dit la Bible au verset 9, le soir Dieu vient comme d'habitude les voir avec la brise du soir. Ça veut dire que cet homme avait cédé avec son épouse. Mais cela, ça n'a rien changé dans l'attitude de Dieu. Dans le péché, Dieu ne change pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'homme fait quelque chose qui n'est pas correct que Dieu se dit, ok, bon, il a fait tout le contraire de ce que je lui ai dit, donc je ne viens plus le voir. C'est au contraire, ça ne change rien. Et malgré la désobéissance, Dieu est venu les voir, est venu les rencontrer, parler avec eux, et surprise, ils n'étaient pas là. Parce que le péché ne change pas Dieu, mais le péché change les hommes. Et c'est ça le drame du péché, c'est que cet homme-là et cette femme vont changer, vont avoir peur, vont avoir honte. Et dans cette situation, il se cache, et voilà la première question de Dieu qui nous apparaît dans la Bible, c'est « Où es-tu ?» Ça m'est arrivé, à moi aussi, quand mes enfants, on n'était pas à la maison, ils font une bêtise, quand on arrive, il n'y a personne. Tu dis « Où sont-ils ?» On demande, parce que j'en ai deux. « Où sont-ils ?» Ben, ils sont éloignés, ils ne veulent pas que les parents sachent, ils ne veulent pas que les parents les voient, ils préfèrent être loin pour ne pas assumer les conséquences de cette action. Et Dieu, en posant cette question, où es-tu, ce n'était pas une question géographique, et on le sait très bien. Parce que la question qu'il va poser, si c'était une question géographique, Adam aurait répondu probablement, Seigneur, je suis derrière l'arbre, la deuxième à côté droit, à côté du fleuve Pison. Et non, Adam a bien compris que la question méritait une réponse, et il va dire, j'ai vu que j'étais nu, j'ai eu peur et je me suis caché. Donc Dieu savait où était Adam, mais il voulait savoir si Adam savait où il était. S'il savait les conséquences du péché, s'il savait l'ampleur de ce péché, et surtout s'il voulait que Dieu vienne l'aider encore. On avait parlé en ville. On est obligé de savoir, vous êtes ici pour savoir où on est. Adam, est-ce que tu sais dans quelles conditions tu t'es mis? Et est-ce que tu veux que je t'aide? Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de bon départ s'il n'y a pas reconnaissance de la situation où on est. C'est valable au niveau alcoolique, par exemple, c'est-à-dire les alcooliques. Pour commencer la guérison, ils sont obligés de se dire « je suis alcoolique, voilà ma situation ». S'il n'y a pas cette reconnaissance, il ne peut pas avoir d'aide, puisque j'ai rien fait, ce n'est pas moi, donc on ne peut pas aider. Mais dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose, ça ne change pas. C'est où es-tu exactement dans ta relation avec ton Créateur. Et Dieu, en s'approchant d'Adam et en posant cette question, il va lui dire, Adam, ce n'est pas fini. Il va avoir des problèmes, sans doute. D'ailleurs, je t'avais dit, Dieu n'a pas dit ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est les humains, ouais, je t'avais bien dit. Dieu ne va pas dire ça, mais il va dire, ce n'est pas fini. Il y aura des problèmes, mais nous les affronterons ensemble. Il va avoir des situations très dures, très lourdes. Mais ne t'inquiète pas, je porterai ton fardeau. Et même si tu ne veux pas que je porte ton fardeau, alors tu le portes. Mais là, je te porte moi dans mes bras.
Amen.
Toi et le fardeau, ce fardeau que tu as choisi, je te porterai et je t'aiderai. Il dit, tu ne seras pas seul. La situation est problématique. Nous avions un plan A. Celui-là, c'est fini. Nous allons prendre une solution B. J'ai appris que les tornades ont un nom qui commence par une lettre de l'alphabet Dans une année, chaque tornade, chaque tempête commence par une lettre de l'alphabet. Et il y a 2 ans, il y a eu tellement de tornades qu'il n'y avait plus de lettres dans l'alphabet latin. Et ils ont commencé avec alpha et oméga, dire avec l'alphabet grec, pour continuer à donner des noms aux tornades. Et bien, je peux dire que Dieu est celui-là qui n'a pas de limite, qui est avec nous. Il est déjà dans le plan. Ça dépassait déjà l'alphabet grec et tous les alphabets. Il a toujours un plan pour nous dire, malgré les erreurs qu'on puisse faire, je suis là et on recommence toi à nouveau. Alors, je ne sais pas où tu es, celui qui nous écoute. Je ne sais pas quels sont tes diplômes, ta situation financière, parce que des fois on pense que ceux qui sont riches, qui ont des diplômes, qui ne doivent pas se poser des questions. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas quelle est ta condition dans ta vie d'étudiant, si tu es étudiant, en tant que fils, en tant que père, en tant que mère. Mais la question de Dieu est pertinente aujourd'hui. Et c'est celle de « Où es-tu ? » Regarde bien où tu te trouves. Parce que moi, je n'ai pas changé mon amour pour toi. Je suis là. Donc maintenant, ma question c'est « Oui ou non ?» Est-ce que tu veux que je t'aide ou non? Si tu veux que je t'aide, je suis là. Où que tu sois, ce n'est pas simplement une question d'aujourd'hui. Des fois, on a pris des décisions dans le passé qui nous poursuivent. Mais Dieu dit, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'endroit aussi loin que je ne puisse pas y arriver. Et il n'y a pas de cachette aussi profonde que je ne puisse pas te trouver, te sortir et t'élever au niveau de fils de Dieu à nouveau. Donc maintenant, c'est le moment de se poser la question et le moment de répondre au Seigneur. Oui, je veux ton aide. Oui, je suis dans une situation, je n'arrive pas à m'en sortir, mais je sais que tu es tout-puissant. Donc la question c'est, où tu es? Est-ce que tu veux l'aide de Dieu?
Merci beaucoup Isabelle pour cette réflexion. J'aimerais nous proposer un petit tour de table. Qu'est-ce qui, Brillant, dans ce message t'a particulièrement interpellé?
Alors oui, merci beaucoup Isabelle pour ce message. Il y a une phrase que tu as dite qui, je pense, parlera à beaucoup d'auditeurs et auditrices. C'est « Le péché ne change pas Dieu ». Mais ça change l'homme.
Ah, je voulais dire la même chose.
C'est vrai. Eh ben voilà. Ouais.
Elle est incroyable.
Et donc,
cette phrase.
C'est assez fort dans notre condition humaine où la phrase que tu as dite, c'est je te l'avais bien dit. Tu vois, c'est toujours cette idée de condition humaine où on se dit qu'on ne mérite pas assez parce qu'on a péché. De toute façon, Dieu ne va pas agir en notre faveur ou il va s'éloigner de nous. Dieu continue à voir Adam comme d'habitude, même s'il sait qu'il est dans cette condition de pécheur. Et j'aimerais encourager les auditeurs et les auditrices dans cette dynamique de dire que Dieu, il est toujours là et il te tend la main, même si tu as péché, même si tu sens que tu ne mérites pas. Par ce message que tu viens de dire, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment encourager.
Moi, je te rejoins. C'est vraiment l'idée aussi de cette fidélité qu'a Dieu. Tu vois, tu as dit à un moment, c'est comme si finalement on se dit que Dieu, il peut plus venir à notre rencontre, il va changer, alors que Dieu, en fait, il revient. J'aime bien l'idée qu'en fait, il n'a pas peur de notre condition. Que nous, quand on voit quelqu'un qui qui fait des choix de vie où on se dit « Oh là là, et ça devient compliqué, comment je vais pouvoir aider, comment je vais pouvoir gérer ?» Non, il n'y a personne qui peut m'aider pour ça. Et de se dire « Mais Dieu, en fait, il n'est pas fatigué. Il ne se fatigue pas de m'accompagner, il se lasse pas de m'accompagner, il reste fidèle à mes côtés, coûte que coûte. Et il est tout puissant, en fait. Donc, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire pour moi. » Et ça, c'est incroyable.
Oui, mais associé à cette idée-là, il y a l'idée aussi que le péché, il provoque l'éloignement de l'homme.
Tout à fait.
Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas grave. Dieu ne se lasse pas parce qu'il est tout puissant, il nous aime. Mais le péché est grave parce qu'il nous éloigne. Et si on le fait très souvent et qu'on banalise, on peut se trouver loin, non parce que Dieu s'est éloigné, non parce qu'il nous a mis de côté, mais parce que le péché nous cache de Dieu et on peut penser que tout va bien, alors que c'est le péché qui nous a...
Oui, d'ailleurs, le péché, on dit, c'est louper la cible, finalement, c'est tomber à côté, et finalement, c'est s'éloigner. Et c'est pour ça, finalement, que Dieu veut nous protéger et nous enseigne à qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour rester proche de lui. Si on s'écarte de Dieu, on s'écarte de la vie, finalement. Mais effectivement, c'est bon. En même temps, comme tu as dit, Adam, finalement, à un moment donné, va quand même dire, bah, je suis là. Et c'est quand même passé ça. D'accord, à un moment donné, il assume, même s'il était caché derrière son buisson, à un moment donné, il est obligé de verbaliser ce qui s'est passé. Et comme tu dis, c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir rentrer en scène. Et ce Dieu de liberté aussi m'a beaucoup touchée dans ce que tu as partagé. Il ne s'impose pas, alors qu'il doit être très frustré, peut-être, des fois, de vouloir nous aider, puis de se dire, ben voilà, je vais lui laisser la liberté de me choisir dans sa vie ou pas.
Ouais. Je voulais dire simplement que l'aventure continue. Mm. Quoi qu'on ait fait, Dieu dit, l'aventure continue avec moi. Tu ne vas pas être déçu.
Amen. Est-ce qu'on a envie d'aller en aventure avec Dieu?
Si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Tu te trouves au Culte Espoir et nous débutons la chronique « Dieu dans les arts ». Où es-tu ? C'est la première question que Dieu pose à Adam. Alors qu'il est caché derrière un buisson, Adam se cache, il a peur, il a honte. Dieu sait pourtant très bien où est Adam, mais il veut lui laisser la place, l'espace pour en prendre conscience, qu'il le verbalise, pour pouvoir ne plus se cacher, sortir de là où il est. À l'image de cette scène, j'aimerais te partager une réflexion de Mick qui s'appelle « Les yeux dans les yeux ». C'est une chanson qui s'adresse explicitement à nous les hommes, mais en réalité à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe derrière nos lunettes de soleil? Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait. Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Dieu voit ce que nous voyons et il y a là une invitation à regarder là où nous en sommes, ce que nous faisons, les pensées que nous entretenons, les choix que nous faisons. Où es-tu pour en prendre conscience et pour aller de l'avant avec Dieu? Je te laisse écouter.
Les yeux dans les yeux. Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires. Pour les chaussettes, il reprend la paire enfilée l'autre soir. Et pour ma part, fidèle au poste, bien positionné à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre envers, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. Et s'il n'y a qu'une paire d'yeux, il y a des milliers de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible. Il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et la guicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardent. Que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler? Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait. Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Sorti de l'étui au quotidien j'étudie tout. L'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films. J'effleure ses larmes mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se linette, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle mec? Si Dieu inspectait tes pensées seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style, repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait. Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux.
Vient de nous partager une musique qui nous invite à l'introspection, notamment pour la gente masculine. Nous avons, nous aussi, les femmes, à nous questionner sur ce qu'il se passe derrière nos lunettes et ne pas avoir peur de le dire à Dieu. Tout comme Brian, j'aimerais vous partager une œuvre qui invite à une forme d'introspection. C'est une lecture que j'ai trouvée passionnante qui s'appelle « L'évangélisation des profondeurs, un chemin vers l'unité intérieure » de Simone Paco. Vous connaissez ? Non ? Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années qui relève le défi de relier réalité psychologique à vie spirituelle. Une des réflexions qui m'a le plus interpellée dans ce livre est une réflexion sur ces deux versets. « Pars vers le pays que je te ferai voir, je te bénirai », c'est Dieu qui parle à Abraham dans Genèse 12, versets 1 et 2. Et au-delà de l'explicite exhortation de Dieu à un voyage physique, géographique, on peut aussi y voir quelque chose de symbolique. Je cite le livre « Va vers toi, vers ta terre intérieure, tes racines, ton « je ». Je suis avec toi. » Et puis ce deuxième verset, « Retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi », qui se trouve dans Genèse 31:3, où Dieu parle à Jacob. Et je cite le livre qui nous fait réfléchir sur une des dimensions que peut avoir cet appel de Dieu. « Retourne dans ton histoire, assume ton passé, je serai avec toi. Tu n'es pas seul pour vivre ce trajet, c'est moi qui t'invite, qui t'appelle, je vais te guider, t'envelopper, te restaurer. » Toi, fais confiance, mets-toi en marche. En préparant cette courte chronique, je me faisais la réflexion en discutant avec des proches de combien il est parfois difficile de savoir où nous en sommes, de comprendre où nous en sommes, de démêler ce qui est à l'intérieur, ce qui nous empêche parfois d'avancer. Dans l'Église, il est parfois difficile d'oser imaginer pouvoir aussi avoir besoin d'une aide psychologique pour le faire. Et d'imaginer que Dieu nous encourage à ce mouvement intérieur pour mieux initier un mouvement extérieur, cela peut faire peur. Alors sois fortifié et encouragé, le Seigneur se tient à chaque pas à tes côtés. Alors j'aimerais te proposer, cher auditeur, un moment de prière en deux temps. Tout d'abord, j'aimerais te proposer que tu puisses prendre un moment pour prier avec tes mots. Cela peut être tout simple, que tu puisses partager à Dieu ce que ces temps de partage, ces réflexions ont éveillé chez toi. Que tu puisses poser à Dieu des questions peut-être, que tu lui formules des demandes qui sont apparues dans ton cœur. Pour ce temps de prière individuelle, nous serons accompagnés par une musique instrumentale. Et puis Isabelle clôturera ce temps de prière en nous joignant à sa prière. Alors prions.
notre père, papa. Nous voici nus et sans protection et cachés de toi. Mais nous voulons te demander que tu viennes nous chercher, que tu puisses nous couvrir de tes ailes d'amour, parce que nous voulons vivre l'aventure que tu as imaginée, rêvée pour nous, l'aventure de marcher avec toi, de marcher avec ceux qui sont à côté de nous, vers un endroit où on n'aura plus peur et on sera tout le temps avec toi. Viens nous chercher, Seigneur. Viens nous embrasser. Viens nous tenir par la main. Même si des fois nous fuyons, nous voulons te demander que tu viennes en aide, parce que nous avons besoin de toi. Garde-nous, reste avec nous. Tu connais tout. Tu sais qui nous sommes. Mais nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans être à tes côtés. Merci pour tout. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu viens nous chercher. Merci parce que tu es un Père d'amour et c'est en ton nom que nous te demandons tout cela.
Amen. Dans la chronique Action, j'aimerais que tu puisses prendre un temps pour réfléchir sur toi et comment tu te sens spirituellement. Essaye d'être dans un endroit calme, loin des notifications parfois incessantes du téléphone ou de l'ordinateur, et prends 15 minutes ou plus si tu veux pour faire le bilan de ce que tu as vécu, de ce que tu vis avec Dieu, tout ce qui te passe par la tête. Et enfin, tu peux terminer par réfléchir à ce que tu as envie de vivre spirituellement avec Dieu. Cela peut être plus de lecture de la Bible, plus de prière, plus de partage avec les autres, des envies, etc. Prendre ce temps, c'est aussi se connecter, créer un lien pour te rapprocher du Père Céleste dans la simplicité.
Moi, c'est un défi qui peut paraître simple, et pourtant, prendre ce temps de face à face avec Dieu, faire l'état des lieux et prendre avec lui des décisions, mettre en place des initiatives pour renouveler ou même créer une relation avec notre Papa Céleste, c'est un beau challenge. Alors merci Brian. Je prie que toi qui vas vouloir le vivre, tu puisses être béni, inspiré, renouvelé par le Saint-Esprit. Belle mise en action à toi.
Amen. Et nous arrivons déjà à la fin de ce culte. Merci Amandine pour tes partages. Merci Isabelle pour ton message. Merci d'avoir accepté notre invitation parmi nous. Et nous te retrouvons la semaine prochaine pour un culte. Et tu nous parleras de promesses, il me semble. C'est
exactement,
bien ça?
Exactement. La première aussi.
C'est ça. Eh bien, cher auditeur, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je te dis à bientôt. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.